19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le gouvernement abandonne un projet à 7 milliards d'euros.
Il renonce à créer un quatrième terminal à l'aéroport de Roissy.
Satisfaction globale des écolos.
Les tests salivaires, ça y est, c'est parti. Ils seront très utiles, notamment pour les dépistages dans les écoles.
En Allemagne, face à la progression des variants, Angela Merkel choisit une stratégie bien différente de celle de la France. La chancelière prône l'extrême prudence et n'est absolument pas prête à lever les mesures de restriction.
Égalité des chances, Emmanuel Macron veut se réconcilier avec sa gauche. Il souhaite favoriser davantage la diversité, dit-il, pour l'accès aux prestigieuses écoles de l'administration.
Elle a passé 1000 jours et 1000 nuits en prison. Son crime, avoir osé conduire seule sa voiture. Libération en Arabie Saoudite de la prisonnière la plus célèbre du royaume. Et puis le foot, trois candidats en lice pour la présidence de la Fédération française. Noël Le Graët, Frédéric Thiriez et Michel Moulin. Trois profils très différents, nous dira Cyril de la Morinerie.
La météo, Anissa Haddadi. Une journée enneigée avant un week-end ensoleillé, enfin.
Oui, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que les chutes de neige seront les plus importantes, avec plusieurs centimètres attendus demain dans le centre-ville de Lyon. Et vous avez raison, Julien, ce week-end, le soleil va dominer sur toute la France sans exception, avant un redout prévu semaine prochaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement abandonne donc son projet d'agrandissement de l'aéroport international de Roissy, pas en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique.
Chantier à 7 milliards d'euros. La création de ce quatrième terminal devait permettre d'accueillir beaucoup, beaucoup plus d'avions, Aurélien Fleureau.
Exactement, imaginez l'équivalent d'Orly, soit 32 millions de passagers en 2019, en plus à Roissy. Eh bien c'était ça le Terminal 4, une extension de très grande ampleur basée sur des prévisions de croissance exponentielle du trafic aérien qui, avant la crise sanitaire, était censé doubler d'ici 2037. Cela aurait donné par exemple 500 mouvements d'avions supplémentaires chaque jour, un terminal flambant neuf qui aurait incarné l'aéroport du futur, qui aurait d'ailleurs été quasiment fait sur mesure pour Air France, pour accompagner la montée en gamme de la compagnie, pour permettre à Roissy d'être le hub le plus prisé d'Europe et donc d'attirer des passagers, ce qui veut dire attirer de l'activité économique. Mais voilà, avec la chute spectaculaire et durable du trafic aérien, ce projet a été jugé obsolète par le gouvernement qui avait déjà laissé entendre il y a quelques mois qu'il faudrait réduire la voilure. Là, c'est radical, on arrête tout. Le groupe ADP doit désormais plancher sur un nouveau projet sans extension de transformation de la plateforme Paris-Charles de Gaulle en favorisant la transition écologique.
Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
Alors les écologistes devraient se réjouir de cette nouvelle. Pourtant Greenpeace notamment estime que ce n'est pas un vrai abandon et qu'un projet d'agrandissement pourrait revenir sur le devant de la scène. Audrey Boëly est la porte-parole du collectif Non au Terminal 4 et elle est beaucoup plus optimiste.
On se réjouit de l'annonce de l'abandon du projet de Terminal 4 par le gouvernement. C'est sûr que c'est une très bonne nouvelle pour le climat. Ce qu'on demande maintenant au gouvernement, c'est un engagement ferme sur ce sujet. Et ça, le gouvernement peut le faire dans le cadre de la loi climat qui comporte un article sur l'interdiction des extensions d'aéroports, puisque là, pour l'instant, le gouvernement laisse la porte ouverte à un futur projet d'extension. Et donc, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est un engagement sur l'interdiction des extensions d'aéroports en France via la loi climat.
La porte-parole du collectif Non au Terminal 4 avec Virginie Salmen.
Le coup d'envoi officiel des tests salivaires moins invasifs pour détecter les personnes positives au Covid.
Le gouvernement mise beaucoup sur ces tests, en particulier pour améliorer le dépistage dans les écoles. Il souhaite en réaliser 200 000 par semaine dès la rentrée. À l'école, mais pas seulement, on pourra nous aussi en profiter. Mode d'emploi avec Cédric Carbonel de la Haute Autorité de Santé.
Ce prélèvement pourra être effectué soit au laboratoire de biologie médicale, soit à domicile, soit sur le site de dépistage. Si vous le faites à domicile, vous devrez très classiquement aller chercher le matériel pour pouvoir réaliser cet auto-prélèvement. Donc vous allez devoir saliver simplement dans le tube. On va pas vous demander des choses qui vont nécessiter soit de se racler la gorge, soit de tousser, soit gargarisme ou autre. Une simple salivation dans le tube, de manière très basique. Et vous pourrez donc le ramener au laboratoire.
Cédric Carbonel de la Haute Autorité de Santé avec Anne Le Gall. Tout à l'heure, Olivier Véran a redit son inquiétude concernant les variants, notamment le britannique, responsable d'une infection sur 4 ou 5 actuellement. Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour notre pays. Le nombre de nouvelles contaminations reste stable. La pression hospitalière qui est forte n'augmente pas. Concernant les variants sud-africains et brésiliens, ils circulent moins en France métropolitaine et c'est une bonne chose, dit Olivier Véran, car ils sont moins sensibles aux vaccins actuelles. Le ministre de la Santé qui a aussi évoqué le cas du département de la Moselle où l'incidence est plus élevée que la moyenne et où ont été détectés de nombreux cas de variants justement. S'il le fallait, dit-il, nous prendrons des mesures. Olivier Véran qui se rendra demain sur place en Moselle.
L'Allemagne à présent. L'Allemagne qui prolonge son confinement et choisit une stratégie inverse à celle de la France.
Avec la prolongation de la plupart des mesures en vigueur, alors que l'on précise que les nouvelles contaminations quotidiennes en Allemagne sont 2 à 3 fois moins nombreuses qu'en France.
Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin, où la chancelière, contrairement à Emmanuel Macron, est convaincue que ces mesures strictes sont nécessaires pour éviter une troisième vague.
Oui, et selon elle, la seule présence des virus mutants sur le territoire allemand indique qu'on est déjà entré dans une nouvelle phase critique de l'épidémie. Ces virus mutants représentent 12% des cas, a-t-on appris aujourd'hui en Allemagne. C'est le double de la semaine dernière. Or, comme ils se propagent plus vite que la souche initiale de la Covid, la seule solution pour contrôler l'épidémie, c'est de faire baisser rapidement le nombre total des nouvelles contaminations, a expliqué la chancelière hier avec son ton très clair de scientifique. Et il y a même des experts ici qui défendent maintenant une stratégie no-Covid. Hors de question de rouvrir les magasins, les restaurants ou espérer un retour de la vie culturelle tant que l'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, est au-dessus de 10. Merkel, elle a fixé un objectif un peu plus haut, une incidence à 35 cas pour 100 000 habitants. Actuellement, ici en Allemagne, on en est à 64. À titre de comparaison, en France, l'incidence est actuellement au-dessus de 200. Et pour atteindre ces 35, l'Allemagne, eh bien, verrouille tout. Elle a annoncé ce soir qu'elle allait fermer ses frontières avec le Tyrol et la République tchèque, comme elle le fait déjà avec la Grande-Bretagne, le Portugal ou encore l'Afrique du Sud. Seule exception en fait, après 2 mois sans école ici, à partir de la semaine prochaine, certains élèves pourront retourner en classe progressivement si la situation sanitaire le permet dans leur région.
Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin. Ce soir, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme. Les décès dus au Covid en Afrique, cette fois, ont augmenté de 40% en un mois. Le continent se bat contre de nouvelles variantes plus contagieuses. Pendant la première vague, l'Afrique avait été le continent le moins touché par la pandémie.
Permettre à quelques jeunes d'origine modeste ou venant des cités d'entrer à l'ENA et dans les grandes écoles de la fonction publique, c'est donc l'objectif d'Emmanuel Macron.
Oui, le chef de l'État était à Nantes aujourd'hui pour présenter ses mesures en faveur de l'égalité des chances, qui prévoit donc entre autres la création de 1000 classes prépa intégrées pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder aux meilleures écoles.
Quand on a une jeunesse qui commence à se dire, en fonction de l'endroit où elle habite,
je sais pas si c'est lui qui l'annonce,
la famille à laquelle elle appartient, du nom qu'elle porte, de sa couleur de peau, etc., ceci n'est pas pour moi, alors on a un problème. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de ne pas être assigné à résidence, c'est-à-dire assigné au milieu social où on est né, à l'endroit où on est né, est très importante. Mais si on a envie d'en sortir et qu'on se dit simplement « ça n'est pas pour moi », parce qu'il en est, c'est déjà écrit, alors la République a un problème. Vous avez un rôle maintenant très important, parce que ça ne marche que par des modèles. La meilleure manière, au-delà de la transparence, de casser l'autocensure, c'est de bâtir des modèles. C'est de dire, en faisant réussir certaines et certains, on montre à d'autres qui sont dans leur famille, qui viennent de leur quartier, qu'ils peuvent se projeter parce qu'ils peuvent suivre le même parcours.
Emmanuel Macron à Nantes, au micro européen de Jean-Rémy Baudot.
19h08, on part à l'étranger en Birmanie où un 6e jour de mobilisation a eu lieu.
Plus de 200 personnes, souvent d'anciens cadres ou des dirigeants politiques, ont été interpellées. La répression s'intensifie. Condamnation unanime de la communauté internationale. Les Européens ont remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de résolution demandant la libération d'Aung San Suu Kyi et le rétablissement d'un gouvernement civil.
L'actualité internationale marquée aussi par une bonne nouvelle, la libération de cette fameuse militante féministe. La jeune femme de 31 ans avait été condamnée pour avoir osé conduire dans son pays, l'Arabie Saoudite, sans être accompagnée par un homme.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Elle est donc enfin sortie de prison, Loujine Al-Atloul, qui était le symbole de la lutte des femmes d'Arabie Saoudite pour leur émancipation. Il faut dire que son maintien en détention était devenu un vrai problème diplomatique pour l'image du royaume.
Ah bah c'était la preuve la plus flagrante d'abord de l'arbitraire absolu de la justice saoudienne. Rendez-vous compte qu'elle a quand même passé presque 3 ans en prison pour ce qui est un geste banal du quotidien partout ailleurs dans le monde. Elle a été condamnée à une peine de 5 ans et 8 mois dans une procédure d'exception normalement réservée à la lutte antiterroriste. Elle a été torturée et agressée sexuellement pendant son détention. On croit rêver, mais c'est un vrai cauchemar. Et c'est également la démonstration limpide du degré d'hypocrisie du régime saoudien qui a finalement autoriser les femmes à conduire sans chaperon un mois après l'arrestation de Loujain El-Hasloul. La grande réforme censée symboliser la libéralisation du royaume sous la houlette du jeune prince Mohamed Ben Salman, vous pensez qu'il l'aurait libéré à ce moment-là ? Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, l'enjeu de ce procès, c'était de décourager toute revendication autonome venue de la société, qui est traitée comme un crime de lèse-majesté. Pour le nouveau monarque, les choses sont claires, modernisation ne rime en rien avec démocratisation.
Cette libération n'indique donc pas une libéralisation du royaume.
Alors, pas le moins du monde, hein. C'est juste une tentative de faire baisser la pression internationale, parce que la mobilisation a été extrêmement forte à l'étranger en faveur de Loujain El-Hasloul. Mais le point de vue de la monarchie saoudienne, le coup de grâce est surtout venu de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qui, dès sa prise de fonction, a fait cesser tout soutien à l'intervention militaire du royaume au Yémen. Le prince Salman sait donc parfaitement que le rapport de force vient de brutalement s'inverser avec l'arrivée de ce nouveau président qui, à la différence de Donald Trump, ne couvrira plus ses outrances. Et il va, bien sûr, chercher à revenir en grâce. Donc la libération de Loujain El-Hasloul, c'était un peu le premier pas de la parade nuptiale que vont maintenant danser les Saoudiens pour tenter de reconquérir les faveurs américaines.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François tous les soirs dans le journal de 19h.
En foot, le retour de la malédiction des huitièmes de finale. Sacrée tuile pour le PSG. Le club devra se passer de Neymar pour son match de Ligue des Champions mardi face au Barça. Il souffre des adducteurs. Il est forfait pour au moins 4 semaines et il pourrait aussi rater le match retour.
Et puis toujours en foot, les candidats à la présidence de la Fédération française avaient jusqu'à ce soir pour se faire connaître.
Et au final, ils sont 3, Cyril de la Morinerie.
Le grand favori, encore une fois, c'est Noël Le Graët. Après une décennie à la tête de la Fédération, l'actuel président vise un 4e mandat. À bientôt 80 ans, le Breton assure que son âge avancé ne l'empêche pas de veiller avec clairvoyance sur le football français.
Je constate, si vous voulez, il y a peu de jeunes qui me suivent, c'est assez drôle. Quand j'ai des réunions un peu partout, des déplacements, je suis en pleine forme, j'ai pas de problème intellectuel même pour le moment.
Son challenger est Frédéric Thirier. L'ancien président de la Ligue bénéficie de l'appui de plusieurs ex-internationaux. Luis Fernandez a été nommé président de son comité de soutien et défend le foot d'en bas.
Pour moi, le plus important, c'est d'aller dans le football amateur et être présent.
Troisième candidat inattendu, Michel Moulin, l'entrepreneur et ancien éphémère conseiller sportif du PSG, estime que les dirigeants actuels sont déconnectés de la réalité.
Dès qu'on passe le terrain, si ça ne veut pas ce qui se passe. Quand vous entendez des dirigeants qui disent qu'il n'y a pas de racisme dans le football, ça devient très grave.
300 grands électeurs représentant le football amateur et professionnel voteront lors de l'élection qui aura lieu le samedi 13 mars prochain.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. Un petit coup d'œil au temps avec vous Anissa. Neige et verglas encore demain au programme. Hein. Prudence.
Ça va concerner les régions, Julien, qui se situent entre la Bretagne et les Alpes en passant par le Massif central. Nous avons demain plusieurs départements en vigilance orange, 22 à cette heure-ci. Alors, dès le début de la journée, entre la Bretagne et le Lyonnais, nous aurons des pluies verglaçantes. Et puis, un épisode important de neige est prévu pour demain sur le nord de l'Auvergne, le Mâconnais et le Lyonnais. On attend plusieurs centimètres de neige dans le centre-ville de Lyon et cela n'était pas arrivé depuis 2011, donc une dizaine d'années maintenant. Les températures, elles sont toujours très froides demain matin avec moins 10 à moins 2 degrés au nord de la Loire. On aura moins 10 à Strasbourg, moins 4 pour Paris, 0 à 9 degrés partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, comptez moins 2 à 15 degrés, encore une amplitude de 17 degrés hein, demain puisqu'on aura moins 2 à Belfort et 15 degrés à Nice. Le week-end, vous me le demandiez, Julien, le voici. Des bonnes nouvelles. Le week-end sera très ensoleillé sur quasiment tout le pays. On va pouvoir faire le plein de vitamine D. Mais il va falloir rester couvert parce que le froid persiste. C'est à partir de la semaine prochaine que ça va se radoucir.
Bien. Eh ben on attend avec impatience la semaine prochaine. Mais ça fait du bien le froid.
Ça revigore.
Merci Anissa. Dans quelques secondes, le débat du Club des idées sur le Made in France. Peut-on encore fabriquer français ? C'est un débat intéressant qu'on va évoquer avec nos invités. D'abord, la carte blanche, elle est signée ce soir, Alexandre Malafaille.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Alexandre Malafaille, cofondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous allez un peu nous étonner, vous allez prendre les choses à rebours, comme vous faites parfois. Vous voulez critiquer le fameux « quoi qu'il en coûte ».
Oui, vous savez, ce quoi qu'il en coûte, pour moi, c'est encore une très jolie formule dont l'exécutif a le génie. Alors, quelques exemples, hein, les Gaulois réfractaires, le plus merveilleux itinérance mémorielle, le pognon de dingue, ces gens qui ne sont rien, etc. Mais je trouve que cette fois, avec le quoi qu'il en coûte, on a vraiment un pompon. Dans mon esprit, c'est un abus de langage, c'est presque une espèce d'escroquerie, en tout cas une illusion destinée à nous endormir. Parce que, dans la vérité, le quoi qu'il en coûte, s'il coûte cher à l'État, très cher, on est bien d'accord, oui. Il coûte quand même beaucoup plus cher que ça aux Français et aux entreprises.
Bon. Pas encore pour l'instant, peut-être demain. Mais la France fait partie des pays qui ont le plus aidé les entreprises. Et les Français d'ailleurs, avec le chômage partiel.
C'est vrai, mais la France fait aussi partie des pays qui ont le plus bridé ou arrêté leur économie. Il suffit de comparer la chute des PIB entre les grands pays du monde pour voir que la France est parmi les gagnants, enfin, ou les perdants si vous préférez. Alors il n'est pas anormal que l'État compense et qu'il assume les décisions qu'il prend, mais là, entre nous, on est très très loin du compte.
Bien, c'est-à-dire, à quel point on est très très loin du compte?
Écoutez, moi je crois qu'on est en train de découvrir, l'exécutif est en train de découvrir qu'en fait le confinement et le couvre-feu c'est un sport de riches. Alors je m'explique, hein, je dis que c'est une contrainte en fait qui est bien supportée par les populations économiquement protégées, j'entends par là les gens qui ont des revenus fixes et assurés.
Oui.
Pour les autres, c'est déjà un enfer ou c'est un enfer en devenir. Et en particulier pour les jeunes, dont vous vous occupez beaucoup cette semaine sur Europe 1 et vous avez
Absolument.
Raison, ce sont les oubliés de cette crise. C'est facile de déclarer comme ça dans le courant de l'année dernière, avoir 20 ans en 2020 ou 21 ans en 2021, c'est difficile. Ouais. Bon, ça quand même c'est un peu trop facile. Et puis je trouve, moi, à titre personnel, comme beaucoup de Français, je suis indigné par ces images, ces files d'attente que l'on a découvert de jeunes qui attendent de recevoir l'aide alimentaire. C'est à la fois intolérable et je crois aussi injustifié. Moi, je m'interroge, comment est-ce qu'on a pu attendre cette extrémité pour regarder cette réalité en face ?
Alors, il y a des annonces qui ont tout de même été faites. Par exemple, les deux repas par jour à 1 € dans les Crous, ça n'est pas suffisant.
Alors, c'est un début de réponse, il fallait en apporter une, elle est à la fois trop tardive et de mon point de vue, extrêmement partielle et tout le monde ne pourra pas en profiter. Et puis, vous savez, sur le fond, Julien, Épicure disait quelque chose d'extraordinaire il y a 2500 ans. Il disait, pour être heureux dans la vie, il faut ne pas avoir faim, ne pas avoir froid, ne pas avoir soif. Et quelqu'un que j'ai connu qui a vécu la Seconde Guerre mondiale me rajoutait « et ne pas avoir peur ». Et pour beaucoup de jeunes aujourd'hui en général, et des étudiants en particulier, si vous voulez, la faim c'est une réalité. Le froid, quand on n'a pas vraiment les moyens de se chauffer, c'en est une autre. Et puis la peur de demain, la peur d'après-demain. Pour les étudiants, c'est comment payer ses études, comment payer son toit,
oui.
Comment réussir ses études, comment trouver un stage, un job, un boulot à côté, et puis un travail après. Et avec des familles qui sont souvent en grande difficulté, c'est très dur. Et donc je crois que la réponse des repas à 1 €, c'est de loin pas suffisant.
Quelle solution alors, par conséquent, Alexandre ?
Alors moi je crois que si on va au bout des mots, quand on dit quoi qu'il en coûte, il faut aller au bout. Voilà. Donc je crois qu'il faut aider les jeunes, notamment tous ceux qui en ont besoin, les étudiants. Et on pourrait par exemple leur allouer une allocation Covid, pourquoi pas, de 750 € par mois. Je donne le chiffre par exemple. Alors évidemment, si on fait le calcul sur 1 million d'étudiants, ça représente 9 milliards d'euros sur 1 an. C'est beaucoup.
Oui.
Mais est-ce que dans le contexte actuel, c'est pas presque rien ? Et puis, quoi qu'il en coûte, oui ou non ? Et puis, est-ce que les jeunes, c'est notre avenir et auquel cas, il ne faut pas investir sur eux ? Est-ce qu'on est en guerre contre le virus, mais est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de notre armée de demain que sont les jeunes ? Ça, c'est des vraies questions. Et je crois qu'il faut faire attention. Les jeunes, ils auront de la mémoire. Ils vont se souvenir de la façon dont on les aura sacrifiés sur l'autel de la crise.
Oui.
Et la jeunesse française, et notamment celle qui a du talent et qui a un potentiel extraordinaire, si elle trouve qu'on les a trop maltraités, eh ben, elle ira voir ailleurs, dans d'autres pays, peut-être plus accueillants. Et si on perd notre jeunesse, on n'a plus d'avenir. Alors, Monsieur le Président, quoi qu'il en coûte, on y va, oui ou non ?
Bien, la jeunesse, c'est notre trésor. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Et c'est pour ça que sur Europe 1, on a consacré cette semaine entière à aider nos jeunes. Merci Alexandre Malafaye.
Merci
à
Julien.
Vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h19 ce soir dans le débat du Club des Idées, le Made in France en question. Avec la crise du Covid et la prise de conscience sur nos dépendances aux importations, est-on en train d'assister à un virage ? Le retour du produire français, les marques s'y mettent en tout cas de plus en plus. Certains groupes décident même de relocaliser, le lunetier Chris par exemple, ou le fabricant de vélo Mercier. Alors peut-on fabriquer français à un prix raisonnable et les consommateurs aussi sont-ils prêts à jouer le jeu du Made in France ? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Yves Jégo.
Bonsoir.
Vous êtes président de la certification Origine France Garantie. Bonsoir Pascal Hébel.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du département consommation au Crédoc. Bonsoir Denis Père.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président de Nature and People First et auteur du livre très remarqué Le Contrat Mondial aux éditions First. Une question peut-être générale d'abord pour vous Yves Jégo. Est-ce que vous croyez au retour du Made in France ou c'est un écran de fumée ?
Je crois qu'il y a une demande, une attente qui s'exprime d'ailleurs, le Crédoc le dira beaucoup mieux que moi, dans les sondages d'opinion. Les gens ont compris, et peut-être que la crise du Covid a été un accélérateur, qu'au fond, ne plus savoir fabriquer des masques, des blouses, des respirateurs, des vaccins, ça nous avait quand même beaucoup coûté et que la désindustrialisation était beaucoup plus dangereuse qu'on ne l'imaginait. Donc, et puis, au fond, acheter français, c'est acheter circuit court, c'est acheter écolo. Donc, il y a des préoccupations. Est-ce que cette demande montante dans l'opinion se traduit en acte d'achat ?
Oui.
Ça reste évidemment la question. Le deuxième point positif, et moi qui m'enthousiasme, et qu'on constate avec la certification Origine France Garantie, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent réaffirmer leur production nationale, qui veulent se repositionner sur ce sujet, et de jeunes entrepreneurs, et ça c'est très intéressant, je crois que vous en avez invité une, mais qui recréent des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir recréer en France. Et tout ça, c'est quand même le terreau d'une renaissance du produire en France qui me semble intéressante.
Oui.
Il faut l'accompagner, il faut accélérer le dispositif, il faut des moyens publics. Mais je pense qu'on est à un moment où on peut envisager une bascule.
Alors, on verra comment on peut aujourd'hui produire français, combien ça coûte, et aussi avec le Crédoc, si les consommateurs sont prêts à jouer le jeu, parce que souvent, c'est vrai que le Made in France, ça coûte un peu plus cher. Vous avez raison, Yves Jégo, ce soir, c'est une émission interactive. On va entendre tout à l'heure des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de miser sur le Made in France. C'est important et on les en remercie d'être avec nous. Bravo à eux, d'ailleurs. Et puis, des Français aussi, qui nous posent des questions ou qui avaient envie de participer à cette émission. C'est le cas de Maryse. Elle a 63 ans. Elle habite à Paris.
Bonsoir, je m'appelle Maryse et j'habite à Paris. Et j'ai 63 ans. Alors, est-ce que c'est facile de trouver du Made in France ? C'est pas si évident que ça. Est-ce qu'il y a des magasins qui ne font que du Made in France ? Il manque un peu de publicité autour de ça. Si on ne fait que du Made in France, il faudrait que ce soit affiché clairement, quoi.
Voilà, c'est intéressant parce que ça pose l'enjeu du débat. Et c'est ce que vous disiez, Yves Jégo. Un produit ne peut pas être totalement Made in France. Même s'il est produit chez nous, c'est déjà beaucoup. Alors, il y a des certifications qui existent. Origine France Garantie, France Terre Textile, il y en a un certain nombre. Il y a des marques 100% Made in France aujourd'hui à succès. Hein. On pense aux slips français, on pense aux jeans, vous savez, 1083. Pourquoi 1083 ? Parce que c'est le nombre de kilomètres qui sépare les deux villes françaises les plus éloignées. Et puis, il y a aussi du faux Made in France. Donc là, il faut se méfier. On en trouve beaucoup dans les magasins, d'ailleurs, du faux Made in France. Ça veut dire apposer des logos en utilisant le bleu, blanc, rouge, qui fait référence évidemment au drapeau français, pour tromper le consommateur.
C'est un fléau. Et effectivement, le consommateur qui veut acheter français, il se dit « mais est-ce que je suis sûr que ce que j'achète est français ?» Et s'il trouve une appellation ou un drapeau bleu, blanc, rouge, il n'est pas sûr que ce soit français. Nous avons lancé avec la certification Origine France Garantie et le magazine Produire en France, une pétition contre ce qu'on appelle le franco-lavage. Alors c'est quoi le franco-lavage ? C'est de repeindre en bleu, blanc, rouge un produit qui n'est pas français. Et il y en a beaucoup
finalement, Yves Jégo, c'est quoi ? C'est de regarder l'étiquette pour regarder où
la meilleure solution, c'est de demander à celui qui vend, c'est de regarder l'étiquette. Et la solution que nous proposions à travers notre pétition, c'est ça qu'il y a une loi qui, comme en Suisse, les Suisses interdisent l'utilisation du drapeau suisse pour des produits qui ne sont pas suisses. Nous demandons, à travers cette pétition je profite de votre antenne qui est en signature sur change.org,
vous avez raison,
de protéger nos produits. Nous demandons à ce qu'il y ait une législation qui dise le drapeau français ne peut pas être utilisé sur un produit qui n'est pas français. C'est tellement de bon sens que ça n'existe pas.
Et vous avez un joli bracelet d'ailleurs, Made in France, bleu, blanc, rouge, et un masque.
Et j'ai un
bleu,
masque,
blanc, rouge,
j'ai un masque
pour les gens qui n'ont
bleu,
pas
blanc,
l'image.
Rouge. Mais ce qui m'agacerait, c'est d'avoir acheté un masque bleu, blanc, rouge et de m'apercevoir qu'il n'est pas fabriqué en France. Je pense que ça coûte très cher à l'industrie française et qu'on a intérêt à rassurer les consommateurs pour faire en sorte que quand on veut acheter français, on soit sûr que ce qu'on achète soit bien français.
Alors justement, Pascal Hébel, il y a une volonté aujourd'hui du consommateur de privilégier le Made in France, parce qu'il y a toujours une schizophrénie. Il y a ce qu'on retrouve dans les enquêtes d'opinion. 70%, je crois, des Français disent vouloir privilégier le Made in France. Et puis après, il y a la réalité de l'acte d'achat.
Oui, alors tout à fait. C'est vrai que le Made in France, on a une forte hausse là, qui est liée en effet à la Covid. Hein. On est aujourd'hui à 65% de Français qui sont prêts à payer plus cher pour des produits industriels. C'est 4 points de plus par rapport à il y a 5 ans. Donc il y a une montée de cette envie d'acheter français. Et ça sépare en deux types de populations. Ceux qui sont comme ceux qu'on a toujours eu sur le Made in France, qui ont des profils plutôt plus âgés, où on est plutôt sur du protectionnisme.
Oui.
Et puis ceux, et c'est là qu'il y a quand même quelque chose qui pousse dans ce sens, un nouveau levier, ceux qui le veulent pour des raisons écologiques, en fait. Et c'est un peu les mêmes que ceux qui veulent du local. Alors c'est vrai que le local est quand même plus en hausse que le Made in France. C'est-à-dire que vouloir quelque chose qui est près de chez soi, parce qu'on a compris que derrière, peut-être que c'est meilleur pour la planète parce qu'il y a moins de logistique, est plus fondamental aujourd'hui, a beaucoup plus progressé.
Oui.
Donc après, la différence entre ce qu'ils ont envie et l'acte d'achat, évidemment, c'est une question de pouvoir d'achat et ceux qui aujourd'hui le font en vrai, hein, c'est bien entendu ceux qui ont un peu plus de moyens.
Alors, ce qui est intéressant de Nipper,
le Made in France, c'est pas toujours plus cher.
C'est pas tout. Mais on va en parler, Diego. Ça dépend des produits.
Il y a aussi un poncif, on dit c'est forcément plus cher, c'est pas forcément plus cher.
Ça dépend des produits. C'est vrai pour l'électroménager, c'est vrai pour la high-tech, c'est moins vrai pour le textile et l'alimentaire notamment, on en parlera tout à l'heure. Denis Père, c'est intéressant parce que vous venez de publier un livre, on va pas en parler, vous êtes là pour parler du Made in France, mais ça s'appelle Le Contrat Mondial et qui raconte le grand chamboule-tout de la mondialisation. On est exactement dans le cœur du sujet. Vous y croyez, vous, à la capacité des industriels aujourd'hui de relocaliser et de produire en France ?
Écoutez, moi je me félicite de voir des industriels qui veulent produire à nouveau en France, des consommateurs qui veulent acheter français pour toutes les raisons que madame a exposées. Tout ça, c'est très rassurant, ça va dans le bon sens. Mais il y a la réalité économique factuelle. Il y a aujourd'hui un poids de l'industrie dans le PIB qui est extrêmement réduit. On est à 11% du PIB. C'est le poids le plus faible des pays industrialisés. C'est le même niveau que la Grèce, par exemple, qui est un pays qui n'a pas de tradition industrielle, qui est un pays de tradition agricole et touristique. Ça a baissé de façon considérable.
On a perdu un quart de notre tissu industriel en l'espace de 20-30 ans.
D'une vingtaine d'années, c'est ça. La moitié des effectifs industriels depuis 1980. Pour deux raisons. Alors qu'on a, il faut quand même se rappeler qu'on a une tradition industrielle qui est considérable. On a co-inventé l'automobile, on a co-inventé l'aviation avec les Américains, on a inventé le cinéma, je suis lyonnais, à Lyon, on a inventé la photographie. Donc on a une vraie tradition industrielle en France et on n'a plus d'industrie. Et pour deux raisons, selon moi. D'abord, pour des raisons françaises, on a une dépense publique qui est très élevé, et donc des prélèvements obligatoires qui sont très élevés, et qui d'ailleurs sont particulièrement élevés sur l'industrie. Hein, on a 6 points de PIB d'écart avec l'eurozone au niveau des prélèvements obligatoires, c'est considérable, c'est 130 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, pour faire la même chose que nos voisins de l'eurozone. Et la moitié de cet écart, il est sur les impôts de production. Oui. Donc on taxe énormément les entreprises industrielles.
Qui
viennent de baisser, ça c'est une très bonne nouvelle, le gouvernement en est conscient. Donc on était 7 fois plus élevé que l'Allemagne, on reste 5 fois plus élevé. Donc ça c'est un premier facteur. Et puis il y a un deuxième facteur qui est la mondialisation. Une mondialisation hors de contrôle, déséquilibrée et sans éthique, depuis 25 ans environ. Jusque-là, ça marchait plutôt bien. On avait des pays industrialisés qui avaient la même histoire industrielle, 150 ans d'histoire industrielle, donc 150 ans d'histoire sociale qui étaient en compétition, et ça marchait très bien. Alors, et puis il y a 25 ans, voilà, on a ouvert les portes de façon, selon moi, très inconsidérée.
Et on va parler du coût du travail, car c'est l'un des éléments clés aussi pour produire français. 19h28, on marque une pause et on se retrouve avec nos invités, les témoignages et vos questions au standard. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat du Club des Idées, toujours sur le Made in France. Avec la crise, c'est vrai qu'on observe une prise de conscience, peut-être le retour du produire français. Est-ce si simple? Les Français sont-ils aussi, en tant que consommateurs, prêts à jouer le jeu du Made in France? On en parle donc ce soir avec nos invités. Et les questions qui nous arrivent aussi au standard. Avant cela, je voudrais vous faire partager un court reportage. Un court reportage qui illustre bien aussi la difficulté du Made in France. C'est un reportage de Pierre Herbulot, fait il y a 3 ans, et qui, pendant l'espace de 24 heures, a tenté de consommer du matin au soir 100% Made in France. Ça donne ceci.
Alors déjà, ça commence mal parce que je ne me suis pas réveillé. Mon réveil, normalement, il est sur mon téléphone, qui n'a rien de Made in France.
Pour le petit déjeuner, par contre, c'est facile, aucun problème. Le beurre, la baguette, tout ça, c'est français. J'avais un petit doute sur la confiture industrielle. Alors, je m'en suis passé.
Là, j'avoue, j'avais anticipé pour le reportage.
Ma brosse à dents, mon dentifrice, mon gel douche et même mon shampoing sont made in France. Ça se trouve assez facilement dans le commerce. Pour m'habiller, malheureusement, le savoir-faire français s'arrête aux portes de mon armoire. J'ai un t-shirt et un pull français seulement. Ça va être compliqué.
Pour aller à Europe 1, j'ai pris le métro, là, pas de problème. Mais dans la rédaction, ça se complique. J'ai besoin de mon ordinateur et surtout de mon téléphone portable pour travailler. Et ça, c'est pas fabriqué en France, ça existe, mais c'est plus un assemblage. Donc je vais me rabattre sur un bon vieux calepin et un stylo. C'est la fin de la journée, on fait le bilan. Le point noir, c'est l'électronique. Pour les vêtements, ça se trouve, mais c'est plus cher. Et puis pour le reste, finalement, c'est pas si compliqué de choisir français. Allez, je me couche sur mon matelas. Fabriqué en France, évidemment, j'ai vérifié.
Voilà, c'est amusant, ça dure une minute, c'est simplement pour planter le décor. Yves Jégo, vous êtes président de la certification Origine France Garantie. Alors, on parlait tout à l'heure du coût du Made in France, non pas le coût de fabrication, mais le coût pour le consommateur. J'ai quand même regardé les chiffres, qu'il s'agisse des lunettes, des vêtements, de l'électroménager fabriqués en France, ça coûte en moyenne, c'est une moyenne, 20% de plus qu'un produit importé. Mais c'est vrai que vous avez raison, il y a des produits qui ne sont pas plus chers. Je vais prendre deux exemples. Un jean Levi's, ça coûte entre 99 et 119 euros. Un jean 1083, qui est le jean made in France, ça coûte entre 99 et 119 euros. Et c'est pareil pour les t-shirts, et c'est pareil pour le slip français. Mais ce sont des produits qui ont quand même un coût pour le consommateur. Ce n'est pas des jeans d'enseigne de fast fashion à 20 euros. Voilà. Donc non, il faut être prêt à jouer le jeu.
Vous avez raison, notre système social de protection sanitaire, environnementale est exigeant, il y a des coûts, Denis Père l'a dit beaucoup mieux que moi sur ce sujet, qui pèsent sur le travail. Moi, je mets deux bémols à ça, à cette espèce de poncif. D'abord, si le coût du travail était si insupportable, aucune entreprise étrangère ne viendrait produire en France. Quand une grande marque japonaise de voitures choisit pour créer sa voiture européenne la France plutôt que la Bulgarie ou la Roumanie, c'est bien quand même qu'on peut y arriver. Oui. Sinon, la grande marque, pourquoi elle serait venue en France si on ne pouvait pas y arriver ?
Mais une voiture ne coûte pas le même prix qu'un t-shirt.
J'entends, mais c'est pour essayer de ramener le débat sur ce sujet-là. Quant au t-shirt, si on était sûr que le t-shirt fabriqué en Chine soit vendu à son juste prix, il serait vendu beaucoup moins cher qu'il n'est vendu aujourd'hui. Je dénonce dans la pétition sur le franco-lavage le fait de badigeonner en bleu, blanc, rouge des produits qui ne sont pas français. Il y a une grande marque française qui a un logo qui ressemble à un crocodile, qui vend des baskets avec un crocodile bleu, blanc, rouge. Vous voyez, je ne cite pas de marque à l'antenne. Ces baskets sont vendues 140 euros. Elles sont fabriquées au Vietnam. Elles devraient être vendues 60 euros et ce sera encore bien vendu. Le maillot de l'équipe de France de football avec les deux étoiles champions du monde est fabriqué en Thaïlande par l'équipementier choisi par la Fédération française de football pour 5 euros et vendu 80 euros.
Oui. Donc, quelquefois, il y a des aberrations.
Julien, quelquefois, le made in France est plus cher, mais très souvent, le made in ailleurs est trop cher. Oui. Beaucoup trop cher. Alors, c'est ça qu'il faut dénoncer.
On est avec une entrepreneure qui s'appelle Adèle. Bonsoir Adèle, vous êtes fondatrice des Petits Mouchoirs. C'est un site lancé en 2020 et vous avez eu l'idée de faire des mouchoirs, non pas jetables, mais des mouchoirs en tissu avec du lin qui vient d'une région entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Et ça marche très très fort. Alors là aussi, ça a un prix, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Ça coûte 25 euros le mouchoir et 45 euros pour les deux mouchoirs. Donc c'est plutôt un produit de luxe, mais ça marche très fort, dites-vous. Pourquoi avoir fait ce choix de fabriquer en France ?
Bonsoir. Et bah, effectivement, alors pour une petite précision, ça s'appelle la fabrique du mouchoir. Moi, j'ai lancé ce site en octobre et j'ai choisi effectivement de faire des mouchoirs français. Tout simplement parce que quand j'ai eu l'idée, je suis partie d'un double constat. D'une, il n'y avait plus vraiment de mouchoirs fabriqués en France il y a 2 ans. Je trouvais ça un petit peu bizarre par rapport à toute l'histoire du mouchoir de soleil qu'on avait, tout ce tissu industriel qu'il y avait autour du mouchoir. Et de deux, en fait, en France, tous les ans, on jette plus de 30 milliards de mouchoirs en tissu, en papier.
30 milliards.
Donc, 30 milliards, je trouvais que c'était... En fait, ça correspond à peu près à un mouchoir par Français par jour, jeté à la poubelle. Donc là, je me suis appelée à la chose et j'ai décidé de créer cette marque.
Est-ce que ça coûte plus cher, Adèle, de fabriquer en France ? C'est le débat qu'on a ici en studio.
Alors, oui, ça coûte... en fait, je ne peux même pas vous dire ça coûte plus cher. Je peux juste vous dire que ça coûte cher de fabriquer en France. Je ne me suis pas du tout renseignée pour aller fabriquer mes mouchoirs à l'autre bout du monde. Moi, je trouvais que j'ai 28 ans. Je suis dans une génération où je pense qu'on est assez sensibilisé à la relocalisation. On est conscient qu'on a un beau tissu industriel en France. Donc je sais que ça coûte cher, mais je sais que derrière, mes mouchoirs, ils sont en lin, ils sont tissés dans le nord de la France. J'ai vu les ateliers, les métiers à tisser. Ils sont confectionnés dans un atelier de luxe où il y a un savoir-faire qui est incroyable. Mes étiquettes, elles viennent de Fougères. C'est Romy derrière avec son équipe qui me les fait. Et en fait, je veux aussi montrer que le produit « Made in France », derrière, il a un coût parce que c'est un salarié qui est là, c'est un savoir-faire qui est mis en œuvre. Et puis, je voulais le valoriser.
Formidable initiative. Bravo à vous, Adèle, et merci pour votre témoignage. Denis Père, réaction. C'est vrai qu'il y a ça aussi quand on fabrique français. Oui, ça coûte plus cher, mais il y a un savoir-faire particulier.
Bien sûr, et heureusement d'ailleurs qu'on a encore ça, bien sûr, pour avoir ce type de produit et qu'il y a des clients qui sont prêts à payer pour ça. Néanmoins, quand on a des écarts de coût de main-d'œuvre qui sont aussi considérables, comparable. Aujourd'hui, la main-d'œuvre industrielle en Chine, on est à 5 euros de l'heure. En Occident, on est à une trentaine d'euros de l'heure.
Oui.
Donc on est sur des rapports de 1 à 5. Une voiture
même
aujourd'hui.
Même 37,50 euros en France.
Même 37,50 en France, tout chargé, effectivement. La France, encore une fois, est dans une position de non-compétitivité, non seulement, bien sûr, par rapport à la Chine, mais même par rapport à ses voisins immédiats, qui est le problème de la double peine que j'évoquais tout à l'heure. Donc, quand on a un rapport de 1 à 5 au niveau de la main-d'œuvre, que dans une voiture, la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est encore 50% du prix de la voiture, ça donne au final un produit qui est 40% moins cher. On commence à voir arriver aujourd'hui des véhicules électriques fabriqués en Chine qui sont 40% moins chers que ce qu'on fabrique chez nous. Alors, on a beau vouloir à un moment donné, effectivement, acheter français, et c'est très bien, et c'est formidable, et une jeune génération qui, effectivement, a les préoccupations qu'on vient d'entendre, la réalité économique du pouvoir d'achat fait que quand c'est 40% moins cher, il n'y a pas d'hésitation, malheureusement.
Pascal Hébel ?
Oui, tout à fait. Il y a un écart de prix qui est très important, donc ça encourage pas les Français à acheter ces produits-là. Je pense qu'il y a quand même un secteur où ça pèse beaucoup, c'est quand même l'alimentaire. C'est-à-dire qu'en alimentation, on peut arriver à manger au même prix, et c'est ça qui s'est beaucoup, beaucoup développé cette année, parce que, avec cette année de Covid, parce que on a pu s'approvisionner, on a été empêché d'ailleurs de s'approvisionner avec des produits qui venaient de l'extérieur, et on a constaté qu'on pouvait arriver en mangeant que français. Et
avec un paradoxe tout de même sur l'alimentaire, c'est une parenthèse, mais on est en train de basculer dans un pays qui était exportateur à un pays qui est importateur en termes d'alimentation. On est au point de
basculer d'ici valeur, un an. Ça dépend un petit peu comment on compte. C'est-à-dire qu'en volume, c'est pas forcément tout à fait ça, mais parce qu'on n'arrive plus à exporter du vin, et c'est le gros du vin.
Par exemple, sur les fruits et légumes, il y a toujours un fruit et légume deux qui vient de l'étranger, qui est consommé en France.
Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a des acteurs quand même qui font des gros efforts. Je pense aux compotes, par exemple. Cette année, ils ont fait le choix d'arriver à faire des compotes avec des produits français. C'est-à-dire que ça vient aussi des acteurs qui choisissent d'aller dans un cercle vertueux.
Alors, il y a une question, vous réagissez dans quelques secondes, Yves Diego, ça va vous intéresser. C'est une question qui nous est posée par un jeune homme qui s'appelle Florent. Je vous propose de l'écouter, Florent.
Bonsoir, je m'appelle Florent, j'ai 27 ans et j'habite à Nières-sur-Seine. Non, c'est pas facile de trouver des produits Made in France. Tout ce qui est jouets pour enfants ou même nouvelles technologies, là ça devient plus compliqué, notamment les téléphones ou les ordinateurs portables ou les produits malheureusement en Asie. Quand on voit un iPhone qui coûte plus de 900 balles, je pense que les marges seront largement suffisantes pour les entreprises de produire ça en Europe ou néanmoins en Europe. Ouais.
Très très bonne question, Yves Diego. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un acteur qui fait un téléphone Made in France qui commence à émerger. C'est vrai que quand on achète un t-shirt à 2 euros, on comprend la raison pour laquelle il est produit à l'étranger. Quand on achète un iPhone, pour citer la marque à la pomme, à 900 ou 1000 euros, il a raison ce monsieur. Le taux de marge, il doit être exceptionnellement élevé.
Oui, je pense qu'il y a aussi... On fait la même émission il y a 3 ou 4 ans, ou 5 ans. On aurait eu le même auditeur qui nous aurait dit il est impossible de trouver des jeans français. On est obligé d'acheter des jeans américains. Tout le monde aurait pleuré.
Et aujourd'hui, c'est le cas.
En disant, ben, c'est pas possible. Et pourtant, c'est fait. Et pourtant, il y a des gens qui se sont mis dessus, qui ont regardé. Il y a eu une volonté économique. Il y a eu une envie de faire. Je pense que ce sera la même chose demain, y compris sur des produits de technologie. La certification Origine France Garantie, on certifie déjà aujourd'hui plein d'accessoires pour les iPhones, des chargeurs, plein de choses qui sont faites en France. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Et il y a le petit électroménager qui est fait encore Made in France. Les fer à repasser, les grippe-mains, les hachoirs, les robots.
Il y a des marques comme Brandt qui font des tables de cuisson, qui font des fours Origine France Garantie. Je vous annonce qu'une grande marque de café française va lancer à partir du mois de septembre, la première cafetière à dosette, en plus sans aluminium, qui va être totalement Origine France garantie. Donc tout ce qu'on pensait impossible, tout ce dont on se disait « non mais c'est la Chine, on ne peut plus », tout ce discours qui nous a été servi en disant « non mais c'est vraiment pas possible », était en train d'être battu en brèche par de la volonté, de l'imagination, un peu d'aide de l'État et des progrès technologiques. Donc moi j'y crois, je pense que c'est possible et je pense que peut-être si on fait la même émission dans 3 ans, on se dira « tiens, mais ah oui, avant on achetait des iPhones chinois, on est content d'acheter des téléphones français. »
Banco, j'ai vu un truc assez formidable, c'est le Thermomix. Le Thermomix qui est fabriqué par une marque allemande et qui est Made in France. Est-ce que vous le saviez ça, Denis Père?
Non, je ne le savais pas.
Et c'est un produit à haute valeur ajoutée, c'est quand même vendu quasiment 1000 euros.
Non mais heureusement, entre la France et l'Allemagne, il y a encore beaucoup d'échanges et au bénéfice de la France aussi, avec les Allemands qui achètent effectivement beaucoup de produits français. On est le premier client
et en termes de coût du travail, il n'y a pas une grosse différence. 37,5 en France,
une grosse différence.
En Allemagne,
mais l'emploi est plus qualifié en Allemagne, donc on est quand même un tout petit peu plus cher.
Vous y croyez-vous à des smartphones fabriqués en France à horizon 3-4 ans?
J'ai du mal à y croire pour une autre raison, c'est que quand on veut relocaliser des produits technologiques comme cela, en fait, on n'a pas non plus l'écosystème autour qui permet de le faire. J'en ai parlé à une époque avec des industriels qui travaillaient dans la technologie, effectivement, et qui disaient, voilà, on voudrait relocaliser, on serait prêt à le faire, et économiquement, ça vaudrait le coup, mais on ne trouve pas les sous-traitants qui fabriquent les vis, qui fabriquent tous les éléments dont on a besoin. Donc, c'est plus compliqué que ça, surtout sur la partie industrielle. Moi, je voulais juste faire un commentaire aussi sur un autre sujet. Oui. On a beaucoup parlé de produits grand public, sur lesquels on sent effectivement une volonté des consommateurs d'aller vers du Made in France, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi toute une partie des achats qui se fait entre entreprises. Et là, je peux vous dire, pour avoir été longtemps dans ce domaine-là, le seul critère qui compte, le seul, absolument le seul, c'est le prix. Et y compris d'ailleurs avec l'État. Moi aujourd'hui, je vends des solutions de stockage d'énergie, j'ai des clients publics principalement, je suis mis en compétition avec des solutions chinoises qui commencent par des enfants qui travaillent dans les mines du Congo pour 25 centimes de l'heure, dans des mines qui ne sont pas étayées, les gens n'ont pas de gants, pas de masques, les mines s'effondrent, on ne va pas les chercher. Le process continue en Chine, où c'est pas beaucoup mieux, c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Il y a aussi beaucoup de travail des enfants, il y a des normes sociales qui sont extrêmement basses aussi, les gens n'ont pas le droit de se syndiquer, etc. Et là, on me dit, monsieur Père, vous savez, ce qui compte, c'est le prix et uniquement le prix. Moi, je vais faire travailler des ouvriers en Martinique qui ont tous les droits, et c'est tant mieux. On va respecter la nature aussi, et c'est tant mieux. C'est dans le nom de ma société, d'ailleurs, Nature et People First.
Mais ça coûte
mais
plus
au bout
cher.
Du compte, oui. Ça coûte plus cher et c'est pas du tout valorisé. Alors, on y arrive parce qu'on est créatif, on se bat, mais c'est pas du tout valorisé.
Pascal Hébel, sur ce point, est-ce que c'est un argument qui résonne dans la tête des consommateurs français? C'est-à-dire, c'est un peu l'effet papillon. L'acte d'achat chez nous en France, du coin de la rue, a un effet... vous le disiez, de production industrielle, de normes sociales à l'autre bout de la planète. Est-ce que ça résonne dans la tête du consommateur français?
Oui, tout à fait, parce qu'on voit bien que, par exemple, il y a des marques qui sont mises sur la juste rétribution des producteurs, qui marchent très très bien. C'est-à-dire que cette notion, et en ce moment, elle monte, en fait, hein, cette volonté que les producteurs...
Alors, je pense, c'est qui le patron,
voilà,
par exemple.
C'est ça, tout à fait. Dans tous les cas, dans le domaine de l'agriculture, on voudrait que les producteurs agricoles, donc de commerce équitable, ça fonctionne très bien parce qu'il y a cette... peut-être parce qu'on a eu on a vu tous ceux qui étaient au front et donc on a envie de bien rémunérer ceux qui produisent. Donc ça résonne et c'est vrai qu'il y a du boycott hein, on sait qu'on dénonce une grande marque, par exemple, de chaussures qui fait travailler des enfants. Il y a des mouvements où les gens arrêtent d'acheter. Oui. Et donc, ça remet en cause ces modèles qui viennent de
donc
trop
ça,
loin.
Ça peut avoir un impact.
Oui, 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 les consommateurs sont engagés, ils votent en consommant.
Alors, on parlait de relocalisation, possible, pas possible. On est avec une jeune femme qui s'appelle Maëlle Chassard, qui fait un truc absolument formidable. C'est la fondatrice de Looney. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Looney, vous, amis auditeurs qui nous écoutez, c'est cette petite boîte à raconter des histoires pour les enfants. J'en ai eu une pour mes enfants, donc je connais le produit, c'est absolument génial. Voilà, donc bravo pour cette invention. Et alors, vous avez fait le chemin inverse. Vous avez commencé par produire en Chine, là aussi, dites-moi si je me trompe, car c'est moins cher qu'en France, évidemment. Et vous avez, en mars 2016, décidé de lancer une première production relocalisée en France pour commercialiser la boîte sur le marché français et sur le marché européen. Est-ce que c'est ça?
Alors, en mars 2016, c'était la première production chinoise qu'on a lancée, ce qu'on a commercialisé cette année-là. Par contre, c'est en mars 2020 qu'on a lancé, juillet 2020 qu'on a lancé la production en France.
Bien. Pourquoi avoir fait choix de relocaliser en France?
Ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on s'est lancé, on voulait directement fabriquer en France. Ça faisait partie de nos valeurs et en tant que jeune entrepreneur, on voulait faire les choses correctement. Or, les coûts étaient beaucoup trop élevés et nous, en se lançant, on avait vraiment pas de fonds. Mais on s'est fait une promesse de relocaliser un jour si la boîte avait du succès. Ça a été le cas. La Fabrique à l'Histoire, effectivement, a énormément de succès aujourd'hui, ce qui fait que quand on s'est posé pour réfléchir à une nouvelle version en 2018, le Made in France, le fabriqué en France, a été une évidence. Et en plus de ça, on avait les moyens à ce moment-là. C'était vraiment pour honorer une promesse, oui, et rentrer dans les valeurs de l'entreprise.
Alors, Maëlle Chassard, pour être tout à fait concret, sans révéler de secret de fabrication, oui, est-ce que, pour que chacun comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous dire combien plus cher ça coûte de fabriquer la même petite boîte à histoire en France par rapport à la Chine?
C'est une dizaine de pourcentage de plus cher de fabriquer en Chine. Donc effectivement, nous, on rogne...
En France, vous voulez dire.
En France, ouais. En France, pardon.
Y compris avec les coûts de transport, parce que la Chine, c'est loin et il faut...
Oui, tout compris.
Oui, tout compris.
Oui, tout compris, c'est une dizaine de pourcentage de plus. Cela dit, nous, c'était quelque chose qui rentrait dans le cahier des charges pour que le projet soit économiquement viable, c'est qu'on soit quand même compétitif en fabrication. C'est le cas puisque le projet est viable, mais voilà, ça fait qu'on rentre quand même sur notre marge.
Bien.
Vous voyez qu'on va arriver à avoir des ordinateurs.
Yves Jégo, c'est labellisé ça avec votre label Made in
non,
France ?
Non, je ne sais pas si elle est encore labellisée Origine France Garantie, mais ce sera volontiers pour qu'elle puisse affirmer sa volonté. Je pense que ce qu'on vient d'entendre est exactement caractéristique de la génération qui monte. La génération Made in France, ce sont des consommateurs d'un côté et des jeunes entrepreneurs de l'autre qui ont compris que l'enjeu, il était social, il était environnemental, que le circuit court le plus parfait, c'est le circuit national, et qui veulent se donner les moyens de le faire. Et dans beaucoup de cas, voilà encore un cas, 10% d'écart, c'est plus rien. Oui. C'est vraiment, on joue sur...
Il faut avoir un peu de volume, mais...
Il faut avoir un peu de volume, mais enfin, ça devient acceptable sur cet aspect. Je pense qu'on peut encore faire des gains de productivité et qu'on peut retrouver beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le veut. Et derrière ça, c'est un projet de société. Moi, je le dis, s'il y a des futurs candidats à l'élection présidentielle qui nous écoutent, produire en France, c'est le projet qui nous manque pour mobiliser la société.
Merci,
les ouvriers, les ingénieurs, les designers, les jeunes, les consommateurs, les territoires. Et ce témoignage-là, il faut le diffuser tous les jours sur Europe 1 parce qu'il donne... non, mais il montre que c'est possible.
Merci Maëlle, merci beaucoup pour votre témoignage et votre histoire. Un dernier témoignage, Christine qui habite également à Paris, c'est sur l'acte d'achat aussi et la manière dont les Français sont prêts à mettre un peu plus, voilà, à dépenser un peu plus pour consommer français. On l'écoute.
Bonsoir, je m'appelle Christine, j'ai 49 ans et j'habite dans le 15e à Paris. Je suis prête à payer plus cher, après il ne faut pas non plus que ce soit 20% plus cher, mais c'est un gage de qualité. On sait que les conditions dans lesquelles le travail est réalisé aussi est contrôlé, qu'il n'y a pas non plus d'abus et d'exploitation d'enfants éventuellement, et d'exploitation de gens qui sont rangés dans des cages à lapins, comme on a pu voir en Chine ou dans d'autres pays. L'aspect écologique, économique et puis aussi humain, c'est important.
Voilà, au micro de Hélène Terzian, qu'on remercie. Merci Hélène Terzian. C'est important parce que ça rassemble, Pascal Hébel, tout ce qu'on a dit depuis le début. Là, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a quand même la notion de prix. Hein. Forcément, il ne faut pas non plus que ça atteigne des fortunes.
Oui, tout à fait. C'était intéressant parce qu'elle donnait tous les arguments. Et c'est vrai que le social joue beaucoup en ce moment. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers du lien social qui manque. Et donc, en fait, on le voit derrière dans le choix des commerces. On va beaucoup plus dans les commerces de proximité pour cette raison. Parce que d'abord, on est plus sûr que chez le commerçant d'à côté, il y a plus de Made in France ou de local. Et donc, le social est très important aussi.
Denis Père, sans faire de politique, un petit clin d'œil, il nous reste quelques minutes. C'est un peu la victoire d'Arnaud Montebourg, cette histoire du Made in France aujourd'hui, que tout le monde s'approprie finalement, parce qu'on a compris l'importance de relocaliser nos entreprises. Quand le président dit on est trop dépendant de l'étranger pour l'alimentaire, pour la santé, pour l'industrie, ça rejoint un peu les thèses qu'avait développées le candidat socialiste il y a quelques années.
Oui, alors après, il faut voir comment on s'y prend.
Il n'était pas le seul,
oui, et puis la Covid a quand même beaucoup aidé à ouvrir les yeux avec la dépendance par rapport aux masques et aux médicaments. Donc il y a effectivement une prise de conscience de la nécessité de le faire. Après, il y a plusieurs manières de le faire. Je pense que le repli sur soi, mettre des barrières autour du pays, qui est quand même beaucoup les idées d'Arnaud Montebourg, je pense que ça n'est pas la solution. Je pense que la solution, c'est une alliance des démocraties libérales qui partagent les mêmes valeurs, qui ont cette même histoire sociale et environnementale, 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale, et qui décident de mettre en place des mécanismes compensatoires. On commence à parler de taxes carbone aux frontières au niveau de l'Europe. Il faut, je pense, faire la même chose, des compensations sociales pour rééquilibrer les coûts de main d'œuvre, faire que le coût de main d'œuvre soit plus un différenciateur.
Ça me fait penser, parce que la notion de vertu sociale revient beaucoup, Yves Jégo. Un label, en plus du Made in France, un label social demain, est-ce que ça aurait un sens sur les produits importés ?
Oui, mais l'indication sur l'origine, ça vaut déjà label social.
C'est
parce
vrai.
Qu'au fond, vous savez qu'entre un produit fabriqué en France, Origine France garantie, et un produit Made in Vietnam ou Made in Bangladesh, vous avez toutes les indications. Sur ce sujet, moi, je fais partie de ceux qui, depuis le début, depuis plus de 10 ans, ont accompagné ce discours. Je note que la certification Origine France garantie pour rétablir l'équilibre politique, je ne fais plus de politique, mais a été créée sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy qui m'avait confié cette mission. Je pense qu'au fond, dans la classe politique, c'est assez partagé. Que la question est-ce qu'on va avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions et d'accompagner ce mouvement, l'opinion étant prête aujourd'hui. Et que la seconde question, est-ce qu'on va en faire un projet de société ? Pardon d'être un peu lyrique, mais je pense qu'on a besoin de projets projet collectif.
Bien.
Et produire du jardinier le plus modeste à l'ouvrier le plus performant, produire en France, ça peut être un projet collectif formidable pour mobiliser notre pays.
Merci infiniment Yves Jégo, président de la certification Origine France Garantie. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle, il y a le magazine qui va avec, Produire en France. Made in France, les femmes prennent le pouvoir. C'est la une de ce 10e numéro. Merci Pascal Hébel du Crédoc de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci Denis Père, je rappelle le titre de votre livre passionnant, Le Contrat Mondial.
Merci.
Aux éditions First.
Europe 1, Julien Bugier.
19h52, on se retrouve dans quelques instants avec les archives, et on va vous raconter une histoire moins réjouissante qui s'est passée il y a une quarantaine d'années dans le métro à Paris. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, la suite d'Europe Soir avec les archives. 3 minutes pour comprendre. 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Jacques Kerry.
Bonsoir.
Alors ce soir avec vous, on évoque les violences policières survenues un certain 8 février 62 dans la station de métro Charonne, à Paris, à la suite d'une manifestation contre l'OAS et l'Algérie française. 9 personnes se réfugient dans la station. Réfugiés dans la station, un lieu et des violences restées longtemps dans la mémoire de la gauche française comme un immense traumatisme.
Oui, il est 18h30 ce joli-là, dans l'est de Paris, la nuit tombe et une petite pluie fine l'accompagne. À l'appel du Parti communiste français et de plusieurs syndicats de gauche, des groupes de manifestants se réunissent au niveau de 5 stations de métro. Les pancartes qui commencent à s'agiter sont les mêmes que celles que l'on peut voir depuis plusieurs mois en France. OAS assassin, paix en Algérie. Depuis l'échec du putsch d'Alger presque un an plus tôt, l'état d'urgence est la norme en France. La veille encore, les partisans de l'Algérie française ont commis une série d'attentats contre des journalistes. André Malraux aussi était visé. La bombe qui lui était destinée a gravement blessé une petite fille de 4 ans et demi. Dans ce contexte, la manifestation du soir est interdite. Mais ceux qui sont là veulent rejoindre la place de la Bastille. La police et les forces de l'ordre sont en nombre. Les premiers affrontements ont lieu boulevard Beaumarchais, où se trouve le reporter d'Europe 1, Jacques Ouvéritch.
Les manifestants se sont emparés de pierres et de bouts de macadam et les jettent sur le service d'ordre qui charge avec des bâtons longs d'un mètre. Pourquoi vous avez des cailloux dans la main?
Parce que les flics nous ont frappés tout à l'heure.
Voilà, et on le sait aujourd'hui, les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de réprimer énergiquement la manifestation.
Oui, un ordre donné par le préfet de police Maurice Papon, et tout bascule dans le chaos et dans l'horreur vers 19h30 à l'intérieur de la station du métro Charonne, sans que l'on comprenne au départ exactement ce qui se passe.
La police chargeait, il y a eu des coups de matraque, des gens matraqués, je les ai vus.
Vous êtes sûre, madame, vous avez vu 2 personnes mortes de vos
yeux ? J'en suis sûre. On a transporté ces personnes sur le quai du métro Charonne. J'ai pensé que je connaissais un docteur. J'ai couru le chercher. Le docteur a déclaré une fracture du rocher, il n'y a plus rien à faire. Il y en a un autre qui est mort après devant moi.
9 personnes en tout trouvent la mort dans la station de métro, étouffées ou avec le crâne fracturé. Et il faut attendre le lendemain pour commencer à y voir plus clair. Des policiers ont chargé sur le boulevard Voltaire alors que la manifestation commençait à se disperser, raconte un participant. En voulant se réfugier dans le métro, les manifestants se sont ainsi retrouvés pris au piège avec des forces de l'ordre qui ont continué à matraquer jusque sur les quais.
Lignes de gens arrivés en bas des marches se sont trouvés bousculés, écrasés par des couches successives de manifestants qui s'engouffraient dans l'escalier.
Y a-t-il eu des grilles d'arbres et des tables qui ont été projetées sur les manifestants qui étaient dans la bouche du métro ?
Oui, il y a eu au moins 3 grilles d'arbres qui ont été jetées soit par-dessus la rambarde, soit du haut de l'escalier, sur les gens qui se trouvaient empilés et qui ne pouvaient absolument plus bouger et qui hurlaient.
Voilà, la police se retrouve donc accusée d'avoir jeté des grilles d'arbres sur les manifestants et de les avoir matraqués à mort.
Oui, une répression policière documentée, avérée. Pourtant, 4 jours plus tard, le Premier ministre Michel Debré se rend dans les locaux de la police parisienne pour lui apporter le témoignage de sa confiance et de son admiration. Le lendemain, le 13 février, une immense manifestation rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes de la place de la République au cimetière du Père-Lachaise. Un cortège ému et indigné participe aux obsèques des victimes. Le journaliste Christian Bernadac était présent.
C'est à 12h20 que les cercueils arrivent à l'entrée du cimetière du Père-Lachaise. Près de 200 000 Parisiens, si ce n'est davantage, auront tenu à apporter un dernier hommage aux victimes des manifestations du 8 février dernier.
Aucun responsable ne sera désigné et puni. Le dossier est classé par un non-lieu en 1966, en vertu d'une loi d'amnistie votée la même année. Les tristes événements de Charonne resteront le mémorial de la gauche française pendant plusieurs décennies, même si, selon le chanteur Renaud, qui le chante dès 1975, on a tendance à trop vite oublier les victimes.
Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics à tous les coins.
Renaud Hexagone, merci Jean-Jacques Herry pour ses archives et ce récit. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Ethné sous le signe de l'Hexagone.
je savais que tu allais chanter la suite.
Évidemment. Alors ce soir, mon invitée, elle ne chantera pas de Renaud, elle se chantera elle-même puisqu'elle s'appelle Pomme. Elle est nommée demain aux Victoires de la musique dans la catégorie artiste féminine de l'année. Pomme qui a aussi publié une courageuse tribune ce matin sur Mediapart pour parler de harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime au début de sa carrière. On l'interrogera aussi là-dessus, bien sûr, dans Musique.
Bien, merci Émilie. On te retrouve tout de suite dans quelques secondes après le rappel de l'info. Julien Pierce, merci de votre fidélité. Demain, Isabelle Millet à ce micro pour le 18-20. Belle fin de semaine.